There are 274 million French speakers in the world. For France's Emmanuel Macron, speaking French opens doors in an increasingly globalized world. But what many don't realize is that there are more French speakers in Africa than Europe. In 2014, there were 150 million francophones in Africa, but less than 100 million in Europe. There's another 20 million from the Americas and the Caribbean, followed by 2.5 million in the Middle East and Asia. Finally, around 1 million are living in the South Pacific. By 2050, Africa could account for 85% of the francophone world. But according to the International Organization for la Francophonie, those numbers could change depending on how the organization's 54 member states choose to reinforce the language's teaching. With a potential for 700 million speakers, French could become the most widely spoken language in the world. But for now, it ranks fifth worldwide, behind Arabic, English, Spanish, and Mandarin, with 848 million speakers.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Popo Richaud targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target, Popori Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m., in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie. Mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Popourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans. Sur CUT 89,5 FM, Popourri Show, sur votre fréquence, tout au long de l'année, la radio, comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette, with butter or marmelade?
Pour la prochaine saison, devenez nos témoins de la francophonie. CUT 89,5 FM, la radio de l'Université de Toronto, vous ouvre encore plus son antenne.
votre radio a décidé de vous donner encore plus la parole. Vous allez pouvoir réagir à des sujets d'actualité, témoigner et partager vos expériences en tant que francophone ou francophile d'ici ou d'ailleurs. Popourri Show, en partenariat avec RFI et France 24, le magazine phare qui vous accompagne depuis plus de 36 ans. CUTFM, c'est votre radio. Nous la faisons ensemble.
Vous écoutez
le
je danse pas.
Monsieur Coppola, bonjour.
James Ellroy.
Quelle question à poser, c'est un fou.
Pourquoi vous vous retrouvez toujours en train d'attendre seul dans le noir?
I ignore the world around. J'ignore le monde qui m'entoure.
Appel lancé sur les réseaux sociaux.
Le mouvement prend une autre forme alors finalement.
On n'a pas le choix, il faut qu'on passe à autre chose aujourd'hui. Et c'est pas que l'Espagne.
Dimanche 24 septembre 2023. Eh oui, c'est la veille de la journée des Franco-Ontariennes et des Franco-Ontariens. Bonjour et bienvenue à Popourri Show, votre magazine de la francophonie sur CUT 89.5 FM, la radio campus de l'Université de Toronto. Une émission réalisée en partenariat avec Radio France Internationale et France 24. L'ingénieur du son, DJ Devera, production animation Eric Kader, très heureux de vous accompagner depuis 36 ans. Et pour écouter nos émissions, que vous soyez, ou pour avoir accès au calendrier culturel, les rendez-vous du Centre de Recherche en Éducation Franco-Ontarienne, le CREFO, la Société d'Histoire de Toronto, les activités et concerts du mois du Créole à Montréal qui démarre dès le 28 septembre, les nouveautés littéraires des éditions Prise de Parole et de la communication, les annonces communautaires de nos nouveaux partenaires. Veuillez cliquer sur popourrishow.com. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine. Un grand merci à nos fidèles auditeurs, auditrices et généreux partenaires. Et à la question de notre jeu concours de dimanche dernier, quel est l'artiste francophone la plus écoutée au monde ? Vania Niester nous a envoyé la bonne réponse. Bravo, félicitations. Bien sûr, l'artiste la plus écoutée au monde est Aya Nakamura, qu'on a joué la semaine dernière à cette émission. Et Vania a gagné un laissez-passer pour la soirée spectaculaire au Musée Royal de l'Ontario. C'était vendredi soir dernier.
Je ne vous ai pas vu.
Comment ça se fait? Ah oui, c'était une très belle soirée. Du beau monde, DJ, gastronomie des tropiques. Et au plaisir de faire des heureux lors du prochain événement du Musée Royal de l'Ontario. Au sommaire de l'émission d'aujourd'hui, le 25 septembre est une occasion à ne pas rater pour faire rayonner la francophonie en Ontario. Mais que célèbre-t-on réellement le 25 septembre? Quelle est la signification de cette journée? Alors que l'on constate une forte baisse démographique des Franco-Ontariens en 20 ans et de l'impact de l'insécurité linguistique, avons-nous de quoi célébrer en cette journée des Franco-Ontariens? On en profitera pour revisiter la petite histoire, les combats historiques, les événements marquants de l'Ontario français. Nous rendrons hommage à quelques artistes franco-ontariens qui ont marqué l'histoire culturelle de l'Ontario. Jacques Ben Simon, un pilier de la télévision française de l'Ontario TFO, un allié de notre émission qui, hélas, est parti trop tôt et qui est tombé dans l'oubli. Le 25 septembre, journée des franco-ontariennes et franco-ontariens. Est-ce une fête réservée à une certaine élite ou aux franco-ontariens pure laine uniquement? Quelle place aux nouveaux immigrants francophones et aux francophiles ou anglophones qui sont ignorants de la présence des francophones en Ontario. Et pour nous joindre tout au long de l'émission popourri@cut.fm. Toute l'équipe vous souhaite une très joyeuse journée des franco-ontariennes et des franco-ontariens. Et nous ouvrons le bal avec la chanson « Notre place », reconnue hymne officiel des franco-ontariens. La chanson « Notre place » a été composée par Paul Demers et François Dubé en 1989. Paul Demers, un des auteurs, est décédé à l'âge de 60 ans le 29 octobre 2016. Au cours du mois d'août de cette année, le Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens a annoncé l'intronisation de l'hymne franco-ontarien « Notre place ». François Dubé a souligné l'implication de Sylvie Chalifoux-Demers, la veuve de Paul Demers, qui a toujours été engagée dans l'administration de l'héritage de la pièce, les demandes de droits de diffusion. Et oui, Notre place a été interprétée en 1989 au théâtre Queen Elizabeth de Toronto, lors d'une soirée organisée par la Fondation franco-ontarienne et la chaîne française de TVO, aujourd'hui TFO. Notre place, une chanson chantée dans les écoles de l'Ontario en ce 25 septembre. Une chanson ancrée dans la mémoire, dans les traditions. Chanson de ralliement lors des grandes manifestations des communautés francophones de l'Ontario. Et juste après, l'histoire revisitée par un franco-ontarien très engagé. Félix Saint-Denis, directeur artistique de l'Écho d'un peuple, un méga spectacle à présenter de 2004 à 2008 dans la ville de Castleman, dans l'Est ontarien, mettant en scène 32 000 comédiens. Il nous livre aujourd'hui de façon très dynamique comment les francophones se sont établis en Ontario. L'Écho d'un peuple, un spectacle à revoir absolument sur les réseaux sociaux. Allez, une des nombreuses versions de Notre place avec Paul Demers. Le 25 septembre, je vis à 100% en français.
Pour ne plus avoir notre langue dans nos poches, je vais chanter. Ah, que tu viennes de Pointe-aux-Roches ou d'Orléans, ah, je vais chanter, ouais, je vais chanter. Mettre les accents là où il le faut, faut se lever, il faut.
mettre les accents là où il le faut. Faut se lever, il faut célébrer notre place aujourd'hui pour demain. Notre place pour un avenir meilleur. Notre place, donnons-nous la main. Notre place, elle vient du fond des cœurs. Notre place, aujourd'hui.
Les premiers Français à venir percer le territoire qu'on appelle aujourd'hui l'Ontario, on appelle ça en fait le pays d'en haut, parce que c'était en haut du courant, on remontait le courant à partir justement du chemin qui marche, la vallée de Saint-Laurent, on empruntait évidemment le lac Ontario, ce qu'on a surnommé les lacs Iroquois, on montait les chutes Niagara, le lac Érié, le lac Huron, jusqu'au lac supérieur. Donc, c'était vraiment tout le pays en haut du courant. Bien, c'était vraiment la motivation de différentes choses, entre autres, de trouver une route vers l'Asie, une route vers la Chine. Samuel de Champlain, le père de la Nouvelle-France, était vraiment passionné, était convaincu qu'il y avait une façon de passer à travers ce qu'on appelle aujourd'hui le Canada pour se rendre en Chine. Évidemment, les gens savaient qu'il y avait des épices, plein de richesses. Tous les voyages de Marco Polo, qui a eu plusieurs années auparavant, bien, c'était la grande motivation des explorateurs. Fait qu'évidemment, après avoir commencé à coloniser, après avoir bâti la ville de Québec, qui est un tout petit village, bien, Champlain veut tisser des liens d'amitié. Il a fait d'ailleurs des ententes, entre autres, avec ceux qu'il va surnommer les Algonquins, et ensuite de ça, avec les Wendat, avec les Hurons. Puis, en 1610, il y a un jeune Français qui avait à peu près seulement 17 ans, du nom d'Étienne Brûlé, qui est le premier qui est parti de l'Ancien Monde pour aller vivre au Nouveau Monde, avec les Premières Nations, comme les Premières Nations, parmi les Premières Nations. Étienne, ce qu'il faut comprendre à l'époque, c'est absolument révolutionnaire. C'est comme si je t'embarquais aujourd'hui sur la navette spatiale, puis qu'on débarque sur la planète Mars, on se rend compte qu'il y a des genres d'humains comme nous, des gens qui ne parlent pas la même langue, qui n'ont pas le même sens de l'humour, pas les mêmes références, qui ne sont pas tout à fait la même grandeur, pas tout à fait la même apparence physique. Mais c'était vraiment fascinant. C'est un petit peu comme dans le film Avatar que les plus jeunes connaissent. Ils rentraient dans un nouvel univers. D'ailleurs, ça devait être fascinant pour lui parce que le premier Wendat, le premier Huron qui est arrivé en France, lui était très impressionné parce qu'il était allé il avait été ramené par Champlain en échange avec Étienne Brûlé. Puis il avait été dans la cour du roi, à la cour royale, puis il avait été impressionné par le carrosse doré qui était tiré par des orignaux sans panache. Évidemment, parce qu'il n'y avait pas de chevaux encore ici. Les chevaux, ça fait juste à peu près 350 ans qu'ils sont ici au Canada. C'est Jean Talon qui a apporté ça, entre autres, à Ville-Marie, à Montréal. Fait qu'Étienne Brûlé, quand il arrive ici, il arrive vraiment pour créer un nouveau monde. Il va se tisser des liens d'amitié. C'est un truchement. Samuel de Champlain avait dit, c'est important de va connaître les us et coutumes des différents peuples, des Premières Nations. Va créer des liens d'amitié, des liens de confiance. Et le rôle qu'il a joué, c'est absolument unique. Autant que Samuel de Champlain, c'est le grand visionnaire, c'est le savant, c'est le curieux, c'est un scientifique extraordinaire, c'est un bâtisseur de pays, c'est un homme entêté, un noble entêté, comme mon père disait toujours, et qui voulait vraiment bâtir pays, une nouvelle France, une neuve France en Amérique. Autant c'est des jeunes hommes, comme Étienne Brûlé, qui ont été les premiers à faire le travail sur le terrain, à être les éclaireurs, à être les bâtisseurs, à être ceux qui ont noué les liens d'amitié et de confiance nécessaires avec les Premières Nations. Fait que donc, c'est vraiment les premiers coureurs des bois. Il y a eu Étienne Brûlé, il y a eu Thomas Godefroy. Il y en a eu plusieurs, d'ailleurs, comme Jean Nicolet, chez les Nipissing, un peu plus au nord, où aujourd'hui Sturgeon Falls, dans cette région-là, dans le moyen nord ontarien. Ces gens-là étaient vraiment des anthropologues, dans le fond, avant leur temps. Ils ont vécu une vie fascinante. Puis surtout, Ben, se sont mariés. Ils ont pris qui prend mais tu sais, avec les filles du roi, on disait qui prend mari prend pays. Mais dans ce cas ici, ben, qui prend épouse prend pays aussi. Surtout que c'était des sociétés matriarcales chez les Wendat, chez les Hurons. Donc, les premiers enfants français qui sont nés en Ontario, ben, ce sont les pères, c'était des gens comme Étienne Brûlé, puis ses homologues, mais ce sont des êtres métissés, donc des enfants métissés. Puis il y a de quoi être fier de ça, tout le long de la route des rivières d'ailleurs. Ce qu'il faut comprendre aussi à l'époque, c'est quand on voyage à travers l'Ontario, puis pendant 300 ans, là, jusqu'à l'arrivée du train, il n'y a à peu près pas de route. Puis la seule façon de voyager efficacement, ben c'est en canot d'écorce. Le canot d'écorce, là, pendant nos 300 premières années, jusque tout près des années 1900, c'était nos camions, c'était nos voitures, c'était ce qu'il fallait pour transporter les marchandises pour aller faire la traite des fourrures. Puis la grande autoroute transcanadienne, bien, c'était vraiment, quand on part aujourd'hui de la vallée de Saint-Laurent, on remonte la route 17, c'est la rivière des Outaouais, rendue à Mattawa, on emprunte la Mattawa, on va descendre, on va traverser le lac Nipissing. On va descendre la rivière des Français, qui est absolument dangereuse. On arrive au grand lac des Hurons, et ensuite de ça, bien, au Sault-Sainte-Marie, puis au lac supérieur, puis on continuait comme ça jusqu'au Manitoba, d'ailleurs, plus tard, quand on faisait la traite des fourrures, jusque chez les Métis. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre aussi à l'époque. Fait que le rêve d'une Nouvelle-France, s'il y a eu des premiers coureurs des bois, comme Étienne Brûlé, puis ses homologues qui ont vraiment ouvert le pays, ouvert le chemin, il y a eu des gens, justement, comme Samuel de Champlain lui-même, qui est venu faire deux voyages chez nous en Ontario. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sur YouTube une web-série que j'ai faite qui s'appelle « Le Nouveau Monde de Champlain ». Ce sont 7 émissions de 30 minutes. On est dans le canot de Champlain et d'Étienne Brûlé. On s'en va à la rencontre des peuples Wendat, des peuples Anishinaabe, dont je vous parlais tantôt, des Anishinaabe. On a filmé ça à différents endroits, un petit peu partout en Ontario. On a vraiment fait une reconstitution historique avec des gros villages. En fait, on a eu 900 figurants. On a eu l'honneur, le privilège, étant guidé avec des aînés autochtones, de pouvoir revêtir le régalia, c'est-à-dire des tuniques autochtones, puis dans le respect de redonner vie à des villages de chasseurs, de cueilleurs, des nomades, ou encore des agriculteurs, que ce soit des Anishinaabe ou des Wendat qui vivaient dans des maisons longues. On a tourné ça à Sainte-Marie au Pays des Hurons. Près de London, un endroit qui s'appelle Skanadat, qui est absolument fascinant, c'est à découvrir, à visiter. À la Première Nation des Pissing, on a fait un grand tournage avec 97 personnes, et c'était la première fois sur la réserve qui acceptait, qui accueillait des caméras. Et les aînés, les parents, les grands-parents, tout le monde était enchanté. On a reproduit, dans le fond, l'arrivée de Champlain chez les Nipissing, voilà 400 ans, avec des Anishinaabe, si on veut, des Algonquins de cette région-là. C'est beaucoup des Ojibwés maintenant, avec des Métis, puis un paquet de Franco-Ontariennes, puis de Franco-Ontariens. Donc, Champlain va faire deux voyages. Évidemment, il va même passer presque un an au complet en Huronie. Il est arrivé justement le 1er août 1615, il est arrivé à ce que Penetanguishene aujourd'hui, à Tohanché, tout près de là. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a célébré en grande pompe en 2015 l'arrivée de Champlain. Ils ont fait l'inauguration à Penetang d'un beau parc qui s'appelle le parc Champlain-Wendat. Ode à la Nouvelle-France. S'il y a eu des explorateurs comme Champlain, je peux vous parler de trois genres de personnes qu'on a eues chez nous en Ontario. Trois rêves différents. Dans le spectacle de l'écho d'un peuple, on le célèbre avec cette belle chanson-là, qui s'appelle « Ode à la Nouvelle-France ». Bien, tout d'abord, je vais vous parler de Madeleine. Madeleine de Roybon. On a eu chez nous, en Ontario, une fille du roi, peut-être plus qu'une, je ne suis pas certain. Une fille du roi qui est venue bâtir pays. C'est une femme d'affaires extraordinaire. C'est une femme qui avait vraiment un caractère fort, une personnalité forte et tenace. Qui était capable de se lier d'amitié, d'ailleurs, avec des Mohawks, des peuples autochtones de la région de ce qu'on appelle aujourd'hui Kingston. Mais Kingston, à l'époque, c'est le fort Frontenac, c'est l'explorateur de La Salle qui a fait bâtir ça dans les années 1680. Évidemment, ben Madeleine, elle, c'est la première fille du roi qui arrive chez nous en Ontario, qui est propriétaire de terres et seigneuresse de Cataraqui. Donc ça, c'est quand même beaucoup de noblesse pour une fille du roi. Et puis, elle vend du bétail, elle va même, c'est comme notre première monitrice de langue, comme on dirait en éducation, parce qu'elle va même enseigner le français à des enfants autochtones. Donc, quand on parle des femmes, entre autres, elles y étaient depuis le début dans notre histoire. Pas nombreuses, mais les premières, c'était fantastique. Ce qu'il faut comprendre aussi à l'époque, c'est que venir au pays d'en haut, au pays des Grands Lacs, en Ontario aujourd'hui, c'était vraiment comme partir en contrée totalement exotique, en contrée inconnue, sauvage. Pourquoi? C'était vraiment une contrée d'aventure. Dans la vallée du Saint-Laurent, on est en train de reproduire des petits villages comme en France. On a bâti, évidemment, Québec. Ensuite de ça, Ville-Marie, qui va devenir Montréal par la suite, Trois-Rivières. Il y avait trois postes, des postes de traite, puis en fait, il y en a une sur une colonie, l'autre sur un poste de traite. Montréal, c'était une mission ultra-catholique. Mais chez nous, en Ontario, c'était différent. On vivait beaucoup avec et parmi les Autochtones pour bâtir pays. C'est quand même vraiment fascinant. Donc, Madeleine, c'est une de nos plus grandes pionnières, une des plus anciennes que je connais comme française en Ontario. Il y a eu aussi des militaires qui sont venus chez nous en Ontario. Puis, le plus célèbre de toute l'histoire de la Nouvelle-France, c'est Pierre Lemoine d'Iberville. D'ailleurs, il y a peut-être certains d'entre vous, un peu plus âgés que moi, qui a peut-être connu dans votre jeunesse la télésérie qu'il y a eu à Radio-Canada sur Pierre Lemoine d'Iberville, qui n'existe plus malheureusement. C'est un être fascinant. Pierre Lemoine d'Iberville, c'était un des plus grands militaires. C'était le meilleur capitaine de navire qu'il y avait en Amérique. Il était redouté jusque dans les Antilles. Puis, c'est un coureur des bois fascinant. Fait que Pierre Lemoine d'Iberville, lui, va remonter justement à l'Outaouais avec le chevalier de Troyes. Je pense que c'est en 1686. Ils vont remonter pour reprendre les forts français à la baie James, à la baie d'Hudson, que les Anglais s'étaient accaparés en venant par l'océan en navire. Des histoires fascinantes. Il a inventé des techniques militaires en navire qui n'avaient jamais été vues ailleurs. Fait que les gens qui connaissent Mel Gibson, qui incarne toutes sortes de personnages d'action là, dans les films américains, notre Mel Gibson, francophone au pays, prend des films tout aussi éblouissants, même encore plus, c'est Pierre Lemoine d'Iberville. Un autre grand personnage, quand on parle de rêve de la Nouvelle-France, qui a suivi les traces de Samuel de Champlain, c'est Robert-René Cavelier de La Salle. J'en ai parlé brièvement tantôt. Lui, c'est un explorateur ambitieux, talentueux, un rêveur. Mais en même temps, dans le fond, il était tellement ambitieux qu'il s'est même fait assassiner par son propre équipage. Je vous compte ça dans quelques instants. L'explorateur de La Salle, lui, il rêvait, comme Champlain, d'être le premier à trouver la route vers la Chine, vers les épices. Il voulait connaître la fortune, la gloire, la renommée. C'est lui qui a fondé, qui a bâti, je vous disais tantôt, le fort Frontenac à Kingston, le fort Niagara. C'est lui qui a innové les chantiers de construction navale sur les Grands Lacs. C'est-à-dire qu'en se rendant en canot, puis en navire, puis en barque, jusqu'aux chutes Niagara, il s'est rendu compte qu'on ne peut pas continuer plus loin. Donc, il a bâti sur le lac Érié. Ils ont remonté de 180 pieds des chutes Niagara, puis plus loin sur le lac Érié. Ils ont bâti le premier navire qui s'appelle le Griffon. Et le Griffon, il a fait voile, c'était pour faire voile vers la Chine. C'est un être mythique, le Griffon, c'est comme une espèce de dragon volant. D'ailleurs, René Robert Cavelier de La Salle, cet explorateur-là, c'est lui le premier qui va passer dans la région de Windsor aujourd'hui. C'est lui qui a surnommé le cours d'eau, la rivière, le Détroit. Il croyait que c'était un détroit. Et d'ailleurs, il y a des gens qui se demandent, il y a un beau lac dans le sud-ouest ontarien qui est le lac Sainte-Claire. D'ailleurs, il y a Ville-la-Salle qui est nommée par rapport à l'explorateur de La Salle. Les gens se demandent, pourquoi on nomme ça le lac Sainte-Claire? C'est parce qu'à un moment donné, je pense que c'était le 15 juillet ou le 16 juillet, quelque chose comme ça. Quand il est en train de faire ses explorations de La Salle, il arrive, il voit ce beau lac-là qui est magnifique, qui est scintillant. Il regarde dans le calendrier liturgique, c'était la fête de la Sainte-Claire. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle le lac Sainte-Claire. Il y a beaucoup de toponymies françaises partout à travers l'Ontario qui, malheureusement, ont été changées, effacées souvent sous le régime britannique qui arrive et qui efface tout. Faut pas oublier non plus qu'il y avait des noms autochtones partout auparavant aussi. Ça, je pense qu'on a l'honneur et le privilège d'essayer de redécouvrir ça, faire connaître ça. Donc, l'explorateur de La Salle, c'est un ambitieux. Il a fait plein de choses. Puis, entre autres, il avait découvert, c'est le premier qui a réussi à prendre les cartes de d'autres explorateurs, comme Louis Joliette, et à descendre dans le Mississippi pour arriver à l'embouchure, la fameuse embouchure du Mississippi dans le golfe du Mexique. Ça, il savait que par le Mississippi, là, peut-être qu'il se rendrait en Chine. Il n'avait pas encore, dans ce temps-là, une bonne idée de ce qu'avait l'air la Terre, mais ça, c'est pas grave. La motivation est là, c'est ce qui a fait ouvrir le pays. Mais pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres explorateurs comme lui qui profitent des cartes des autres, comme il a fait avec les cartes de Louis Joliette, ce qu'il a fait, c'est qu'il a triché puis il a dessiné ses cartes autrement. Dans le fond, il a fait ses trajets un petit peu à côté, à gauche, à droite, et il s'est perdu. Si bien qu'à un moment donné, après s'être perdu après différentes tempêtes dans la mer des Antilles, après avoir mis justement tellement en danger tous les membres de son équipage a décidé de l'assassiner pour le bien du groupe, pour survivre. Ça en dit long sur l'ambition des fois.
On est des gens vrais, des Anishinaabés. Notre esprit franco-wendat fait qu'on aime partager. Dans une maison longue comme les Haudenosaunee. En bas dans mon canot, côtoyé à Taro. Que tu sois sans mêlée ou fier héritier. Moi j'ai parlé haut, on chante tout haut. Fier et métissé chez nous en Ontario.
Les oublier, ce serait tellement bête. Mais la salle nous le crie, c'est urgent de parler. Nos rêves, c'est ensemble qu'on a le pouvoir les capter. Riche les enseignements de nos grands-pères, entendons-nous la sagesse de nos grands-mères. Partout en Ontario, au pays d'en haut, sur la grande tortue, pagayons plus haut. Ouais.
Demande who I am, je réponds fièrement que je viens du fond de Wigwam. Moi, toi et nos racines, qu'elles soient d'ici ou d'ailleurs, on est tous dans mes canaux vers un monde meilleur. Puisqu'on est plus qu'une chose dans la vie, nos cœurs communs tombent au battre à l'infini. Fusionnés ensemble pour l'éternité, on n'est pas mélangés, on est métissés. Quoi?
CIUT 89.5 FM, the sound of your city. Stream us anytime at www.ciut.fm.
Attention, attention, événement. Le Zouk fait son grand retour sur la scène du Zénith de Paris le 31 octobre 2023, veille de jour férié. Le concept Génération Zouk est de retour pour une date qui rentrera dans la légende. Harry Diboula, Joël Ursule, Luc Léandri, Jean-Luc Guanet, Orlan, Aris Bouraya, Milka, Eric Virgal, Leila Chico, Thierry Cam, Jacques Darbeau, Jean-Michel Jean-Louis et bien d'autres. Génération Souk, le 31 octobre 2023 au Zénith de Paris. Un concert orchestré par Tempo Classic Live. Billets disponibles sur bizou.com et dans les points de vente habituels. Un spectacle en partenariat avec Corsair.
Au Congo, le viol s'est banalisé. Malgré l'éloignement de la guerre depuis l'accord entre les rebelles et le gouvernement, les femmes congolaises vivent toujours dans la terreur.
Si vraiment la loi serait appliquée strictement, ça réduirait les cas de viol.
Humiliées et stigmatisées par leur propre famille, elles doivent faire face à l'indifférence des autorités. Nos reporters ont rencontré ces victimes en quête de dignité. Congo, la paix violée. Un reportage inédit de France 24, exclusivement sur iPad.
Eh oui, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que Sophie France Solidarité des femmes et familles interconnectées francophones du Niagara, un organisme communautaire à but non lucratif, planifie, développe, organise et réalise des projets qui répondent aux besoins réels de la communauté immigrante francophone du Niagara. Sophie France est aussi un festival annuel haut en couleur avec Festive Ben, un salon du livre, des ateliers, des projets ambitieux et novateurs. Sophie France, 15 ans déjà, ça se fête. De la culture, de l'art et du patrimoine pour, par et avec les immigrants et les jeunes francophones du Niagara et de Wallen. Découvrez les projets de Sophie France en cliquant sur sophiefranc.org ou visitez notre site web popourichaud.com. Où que vous soyez, si vous songez un jour vous installer dans la région du Niagara, Sophie France vous accompagnera dans votre processus d'intégration en vous offrant des services ciblés dans le domaine social, économique, éducatif et culturel. Pour une intégration réussie, une seule adresse, sophiefranc.org. Sophie France, un organisme qui a déjà fait ses preuves. Ensemble, faisons le changement. Popourri Chaud, 35 ans déjà, fier partenaire de Sophie France.
Bienvenue sur Popourri Chaud, CUT 89,5 FM, votre émission qui vous accompagne depuis plus de 36 ans. Une émission dédiée à la culture, à l'éducation, aux francophonies, aux littératures plurielles, en partenariat avec RFI, France 24, France Inter, Le Crépeau, Ciné Franco, Sophie France Niagara Wallen, les éditions Prise de Parole, De la Communication, la Société d'Histoire de Toronto, le Festival International du Film de Toronto, les bistrots et restos français de la grande ville de Toronto, l'Assemblée de la Francophonie de l'Ontario, l'ACFO de Toronto, le Festival Compazouk de l'Ontario FKZO, le Mois du Créole de Montréal, de la Lito Music. Merci du fond du cœur d'être à nos côtés pour cette 36e saison.
Notre Ontario, ses gens et ses exploits. Découvrons notre Ontario patriote. Du vert, du blanc, notre fierté. Qu'est-ce que ça donne un drapeau? Pourquoi est-ce que les gens sont si fiers d'un bout de tissu? Nous, les Franco-Ontariens, est-ce qu'on a besoin d'un drapeau? L'Ontario n'est pourtant pas un pays. Voyons si on peut répondre à ces questions intéressantes. L'histoire du drapeau franco-ontarien commence dans le Nord, à Sudbury. Un beau jour, un enseignant et son étudiant décident qu'il est grand temps que les francophones de l'Ontario aient leur propre drapeau. Gaétan Gervais, professeur d'histoire à l'Université Laurentienne, et son élève de 19 ans, Michel Dupuis, sortent des cartons de couleur et des ciseaux. Après plusieurs essais, ils choisissent la fleur de lys, qui symbolise la francophonie partout dans le monde, et le treillis, fleur emblème de l'Ontario. Puis, ils rajoutent une bande verte pour les forêts ontariennes et une bande blanche pour l'hiver. Le tout premier drapeau est cousu par une étudiante, Jacqueline England. Par une journée pluvieuse de septembre 1975, ce drapeau est hissé pour la première fois sur un mât à l'Université de Sudbury lors d'une petite cérémonie modeste. Au fil des années, ce drapeau a pris de l'importance. Il a d'abord été exposé dans les écoles et lors d'événements importants. Puis les francophones ont commencé à l'apporter dans les manifestations et les festivals. Petit à petit, le drapeau vert et blanc a été adopté par la communauté. On a même planté des drapeaux géants aux quatre coins de l'Ontario pour souligner la contribution des francophones dans la province. On les appelle nos monuments de la francophonie. En 2001, 25 ans après la création du drapeau, une loi provinciale reconnaît officiellement le drapeau de la communauté franco-ontarienne. Tous les 25 septembre, jour des franco-ontariens et des franco-ontariennes, des milliers de jeunes d'Orléans, de Timmins, de Pointe-aux-Roches brandissent leur drapeau, heureux de proclamer haut et fort qu'ils sont fiers de leur identité francophone. Aujourd'hui, le drapeau franco-ontarien fait partie de notre vie. On s'en sert pour dire au monde « nous existons ». Il représente notre histoire, la mienne et la tienne.
It's when I remember who I was that I can't remember who I am. It's when I remember who I was that I can't remember.
Merci de m'avoir invité à dire quelques mots au nom de la Fédération des clubs sociaux franco-ontariens qui groupe dans le sud de l'Ontario environ 8500 membres dans 33 clubs différents. Nous sommes, bien entendu, solidaires avec le mouvement d'action pour une école secondaire de langue française dans la région du comté d'Essex et à Windsor. Et nous sommes aussi solidaires avec tous les gens qui travaillent à répandre l'idée d'installer les francophones dans un pays qui serait à eux. Nous ne sommes pas tout à fait chez nous encore ici, mais j'espère que ça viendra.
Nous sommes là, à ce moment où, pendant des 50 ans, toutes les énergies ont été canalisées vers une chose.
C'est beau de voir qu'on a des représentants au ministère de l'Éducation. C'est beau qu'on a de voir qu'on a plusieurs de nos gens ici qui votent, qui ont mis le gouvernement actuel en Ontario, qui l'ont mis au pouvoir. C'est beau de voir ça. C'est beau de voir les belles lois qu'on a. Si vous étudiez la loi, mon Dieu, c'est vrai qu'on a le droit d'avoir des écoles. C'est vrai qu'on a le droit d'avoir tout ça.
Le problème, c'est qu'il y a dans le sud de l'Ontario des communautés qui se développent. Il y arrive beaucoup de francophones, c'est vrai, surtout peut-être du Québec. Et ce sont les moins bien informés au point de vue des droits scolaires qui peuvent exister ici.
Un véritable mouvement de résistance.
Monsieur Doc Ford arrive en ville.
Les franco-ontariens veulent faire reculer le gouvernement conservateur sur l'annulation du projet d'université francophone. Ils demandent également le retour d'un commissaire indépendant au service en français.
On ne prendra pas ça. Il n'est pas question qu'on va laisser faire des choses comme ça. Où est-ce que vous vous attaquez à nos institutions?
Devant les bureaux du premier ministre, d'anciens partisans de Doug Ford sont mécontents.
J'ai voté pour lui pour le changement, mais aujourd'hui, en tant que francophone, je regrette beaucoup.
Dans l'Est ontarien, la députée Amanda Simard, qui a quitté les rangs conservateurs en raison de ses compressions, a été accueillie comme une vedette.
C'est la communauté vraiment qui sont les vedettes parce qu'on est le visage de la francophonie ontarienne.
Maintenant indépendante, elle dit avoir les coups des franges.
Je pense que les gens comprennent que même à l'intérieur du parti, il n'y avait plus de chance d'avoir de voix.
Le combat va au-delà des allégeances politiques.
On comprend très bien que l'Ontario peut avoir certains problèmes budgétaires, mais je pense que ce qui est engendré par les coûts d'un commissaire à la francophonie, les coûts d'une université, sont quand même pas des coûts qui sont prohibitifs.
Pour la ministre fédérale de la francophonie, le gouvernement Ford fait fausse route.
Et en matière de droit linguistique, la règle, elle est claire. Lorsqu'on modifie des lois, on modifie les lois pour renforcer les droits linguistiques, jamais pour les affaiblir.
L'envergure de cette mobilisation n'est pas sans rappeler un autre moment phare de l'histoire des franco-ontariens.
Il y a tellement de ressemblances entre tout le dossier de Montfort et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. On ne croit pas que ce qu'on entend. Franchement, avec le jugement à Montfort, on aurait pu faire mieux que ça.
De nombreux franco-ontariens avaient milité contre la fermeture de l'hôpital Montfort à la fin des années 90 sous le gouvernement conservateur de Mike Harris.
Faut tout qu'on se bat. Là, je veux plus me battre.
C'est dans la langue de Shakespeare que l'avocat qui était au cœur de cette cause s'est adressé au premier ministre Ford.
We are fighting for our francophone university and we will win.
Cette bataille dépasse maintenant les générations.
Je vais aller à l'université francophone plus tard, puis en Ontario passer ici que je suis née.
Le gouvernement conservateur de Doug Ford fait valoir qu'il a déjà remis en place certains services dédiés aux francophones, notamment en rétablissant le poste de commissaire aux services en français sous la direction de l'Ombudsman. Mais pour les franco-ontariens, c'est insuffisant.
Combat d'hier, combat d'aujourd'hui. Le 25 septembre, la journée des franco-ontariennes et des franco-ontariens. Et oui, les relations entre les Français et les Anglais au Canada n'ont pas toujours été harmonieuses, mais au fil des siècles, ces relations ont évolué. Au début des années 1900, les francophones comptent pour environ 10% de la population ontarienne. Ces francophones sont appelés franco-ontariens. La population franco-ontarienne a dû se battre au fil des années pour protéger son identité. Plusieurs événements marquants vont ainsi contribuer à l'évolution de l'identité franco-ontarienne. Un des événements incontournables pour la population franco-ontarienne est connu comme la crise du règlement 17. Le premier ministre de l'époque, Whitney, est au nombre de ceux qui sont affolés de voir que les Canadiens français forment 10% de la population de l'Ontario. Il veut protéger la province contre le Quebec Invasion, l'invasion du Québec. Une levée de boucliers s'ensuit dans la communauté francophone. Ses leaders laïcs et ecclésiastiques font front commun. Eh oui, le Conseil des écoles séparées d'Ottawa donne notamment la consigne à ses enseignants de continuer à enseigner en français. Face à la résistance des francophones, le ministère de l'Éducation adopte le règlement 18 qui menace de couper les vivres au conseil scolaire qui refuse d'obtempérer. La province prévient aussi les enseignants récalcitrants qui pourraient perdre leur certificat. Mais l'Association canadienne-française d'éducation d'Ontario notamment demande aux franco-ontariens de continuer leur lutte. Le sénateur libéral Napoléon Antoine Belcour porte même la cause devant les tribunaux et le conseil privé à Londres, mais en vain. La crise scolaire divise le clergé, alors que des évêques anglophones demandent, au contraire, que le règlement 17 soit appliqué dans leur région. Monseigneur Élie Anicette Latulippe est le seul évêque franco-ontarien à l'époque qui presse les franco-ontariens de continuer à se battre. L'humoriste acadien Nathan Dimitroff nous explique dans une façon très décontractée ce qu'était le règlement 17. Combat d'hier, combat d'aujourd'hui, l'histoire des francophones de l'Ontario, revisité. Édition spéciale sur CUT 89,5 FM, Toronto.
Les franco-ontariens en ont subi une en 1912 quand le gouvernement de l'Ontario a adopté une loi qui interdit le français à l'école, le règlement 17. Les franco-ontariens étaient de plus en plus nombreux et, comme dans plusieurs cas, la majorité avait peur de devenir à son tour une minorité. Des groupes de pression protestants réclamaient l'enseignement en anglais seulement. In English only! Et c'est là que le caca a frappé le ventilateur. La résistance s'organise. À l'école Geek d'Ottawa, deux enseignantes et 19 mères bouncer prennent l'école d'assaut. Un siège pour la scolarité! Quand la police intervient, les mères défendent l'école avec tout ça qui tombe sur la main. Des poêlons, des rouleaux à pâte et des épingles à chapeau. C'est ça qui appelle ça la guerre des épingles. C'est pas mal badass quand tu y penses. C'est comme l'affaire la plus acadienne que vous avez faite.
Et encore
capable de garder silence. Inconscience, insolence, zéro tolérance. Esprit rebelle, Prokofiev toujours tenace. En blanc et vert, les poings en l'air, on assume notre place. Sur le chemin, ensemble malgré le petit pain. Venu de loin et encore persistant jusqu'à la fin. Pour le bien de l'héritage, défense nationale. Manifestation, action qui parle ici, on sait se battre. Le cœur sauvage, comme un soldat inoubliable. De nos océans à l'autre, présence incontestable. Ici nous sommes, impossible qu'on abandonne. Francophonie en ville, en ville, au service francophone. Discrimination, ça fait des siècles que ça dure. Les temps sont déjà durs, initiés sont beaucoup purs. Malgré le dos au mur, regarde vers le futur. Sachez qu'on existera, car ça fait longtemps qu'on perdure.
Campus flambant neuf, au cœur de Toronto. L'Université de l'Ontario français a été inaugurée en grande pompe avec la présence de plusieurs personnalités politiques.
Il y a finalement une institution au cœur de l'Ontario, par et pour les francophones.
Cette institution est une revendication de longue date dans la province et le chemin vers sa création a été tumultueux.
Aujourd'hui, on fête une naissance. Mais bon sang, que la période de gestation était longue.
Près de 3 ans après le jeudi noir des Franco-Ontariens, lorsque le gouvernement Ford avait mis sur la sellette le projet de création de l'UOF, conduisant à de vastes manifestations dans la province, c'est un nouveau départ et l'aboutissement d'un partenariat entre l'Ontario et Ottawa.
L'UOF, de même que nos collèges et nos institutions universitaires, ont un rôle primordial à jouer afin de non seulement remédier aux lacunes existantes du marché du travail.
Le décor est moderne, les espaces communs spacieux et peuvent accueillir 2000 étudiants. Pour le moment, 150 étudiants ont fait leur entrée cet automne, majoritairement en virtuel, car 75% des étudiants viennent de l'étranger. Dieudonné, lui, vient de Montréal. Il a été séduit par les programmes comme culture numérique, économie et innovation sociale, qu'il juge novateur.
Les programmes tels que c'est conçu à l'UOF sont, comment dirais-je, originaux.
Natacha est torontoise. Elle a hâte de connaître la pleine effervescence d'un campus.
J'ai parlé avec une fille et on s'entend très bien. Mais malheureusement, chez elle, c'est loin.
Les derniers mois n'ont pas été de tout repos pour la jeune institution, qui a eu de la difficulté à recruter des étudiants canadiens.
Il faut être patient. Il faut savoir que le cycle de recrutement va souvent prendre 3 ans, 4 ans.
En attendant, on mise sur l'immigration et on prépare le terrain auprès de la jeunesse francophone, qui brandit déjà haut et fort ses couleurs.
Célébrer
savoir où je vais, je sais qui je suis. Sur ce grand chemin, je sais que pour toujours, on est de la famille. On vient de partout autour du monde et nous sommes tous réunis ici. Alors encore une fois, il est temps, levons nos voix.
L'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
Eh, hey, monsieur, est-ce que vous cause créole? Parlez-vous créole? Tout le mois d'octobre est consacré à la célébration et à la mise en valeur du patrimoine culturel créole du Canada et de la planète. Comme à chaque année, Popourichou, en partenariat avec la 22e édition du Mois du Créole à Montréal, vous invite cordialement à participer en grand nombre aux nombreuses activités et émissions spéciales tout au long du mois d'octobre. Et oui, le Mois Créole met en lumière la richesse des cultures créoles. À naviguer entre les lieux officiels et alternatifs à la découverte des cultures créoles à travers de la danse, de l'humour, du théâtre, des concerts, des lectures, des tables rondes, des ateliers. Entre tradition et modernité. Nous rendrons hommage aux grands défenseurs des langues créoles et les grands artistes militants de la Maloya, du Séga, du Compazouk et de la Biguine. Retrouvez toute la programmation sur moisducréole.ca et popourichou.com. Au mois d'octobre, laissez-vous tenter par notre programmation spéciale aux couleurs et au rythme du monde créole. Bon mois du créole!
France 24 est sur l'iPad. Un outil de géolocalisation pour suivre en temps réel l'actualité internationale. Où que vous soyez, dans votre ville ou en voyage. France 24, sur l'iPad, des contenus originaux. Accessibles partout, à tout moment et gratuitement. France 24, sur l'iPad, l'information. Où vous voulez, quand vous voulez.
Bienvenue sur Popourichou, CUT 89,5 FM, votre émission qui vous accompagne depuis plus de 36 ans. Une émission dédiée à la culture, à l'éducation, aux francophonies, aux littératures plurielles, en partenariat avec RFI, France 24, France Inter, Le Crépeau, C
Ciné Franco, Sophie Franck, Niagara Wellen, les éditions Prise de Parole, De la Communication, la Société d'Histoire de Toronto, le Festival International du Film de Toronto, les bistrots et restos français de la Grande Ville de Toronto, l'Assemblée de la Francophonie de l'Ontario, l'ACFO de Toronto, le Festival Compazouk de l'Ontario FCASO, le Mois du Créole de Montréal, de la Lito Music. Merci du fond du cœur d'être à nos côtés pour cette 36e saison. Au sommaire de l'émission d'aujourd'hui, le 25 septembre est une occasion à ne pas rater pour faire rayonner la francophonie en Ontario. Mais que célèbre-t-on réellement le 25 septembre? Quelle est la signification de cette journée? Alors que l'on constate une forte baisse démographique des Franco-Ontariens en 20 ans et de l'impact de l'insécurité linguistique, avons-nous de quoi célébrer en cette journée des Franco-Ontariens? On en profitera pour revisiter la petite histoire, les combats historiques, les événements marquants de l'Ontario français. Nous rendrons hommage à quelques artistes franco-ontariens qui ont marqué l'histoire culturelle de l'Ontario. Jacques Ben Simon, un pilier de la télévision française de l'Ontario TFO, un allié de notre émission qui, hélas, est parti trop tôt et qui est tombé dans l'oubli. Le 25 septembre, journée des franco-ontariennes et franco-ontariens. Est-ce une fête réservée à une certaine élite ou aux franco-ontariens pure laine uniquement? Quelle place aux nouveaux immigrants francophones et aux francophiles ou anglophones qui sont ignorants de la présence des francophones en Ontario? Et pour nous joindre tout au long de l'émission, popourri@cut.fm. Toute l'équipe vous souhaite une très joyeuse journée des franco-ontariennes et des franco-ontariens.
Oh, mon manteau de chaise, cuchons le mayonnaise, le mognano comme des poulets.
Faire maintenant la nuit sur les tables demeure quand même une activité très spéciale. C'est peut-être l'activité, si on peut mettre ça en majuscule.
Ça brasse! Ça brasse!
Qu'est-ce que je comprends bien, c'est le plus ancien festival ou soirée musicale francophone hors Québec. Là. Ça laisse savoir que, hey, on est encore là. Il y a encore du monde, malheureusement, qui ne savent pas qu'il y a des francophones à l'ouest du Québec. On est là, on est fiers. Là, de voir que la salle est remplie et que j'en fais partie, c'est vraiment là, c'est cool.
don den la ridan mata patali mata mata talu mali matu mata patali matu don den la ridan mata patali mata mata talu la ride la ride don den la ridan mata patali mata mata talu mali matu mata patali matu don den la ridan mata patali mata mata talu la ride la ride allez ça notre tour à vous faire veiller ah oui tous les samedis et le techno trad va continuer en enfer vivre pour éternité ils attendent la pétone et puis ton arrivée d'une et puis ram tam tam angolais ah ils attendent le patron en verre avec hyper attendre au chien de l'alouette et puis ah bouge bouge tout le monde bouge c'est un son d'air bouge bouge au nom de belle de faire ce micro de carré bouge bouge on prend la balle ça recommence bouge bouge changez de côté vous vous êtes tombés bouge bouge tout le monde bouge c'est un son d'air bouge bouge au nom de belle de faire ce micro de carré bouge bouge on prend la balle ça recommence bouge bouge changez de côté vous vous êtes tombés tout le monde debout tout le monde à genoux monsieur curé vous vous êtes tombés au nom de belle de faire ce micro de carré
les arts et la culture en Ontario français. 50 ans de création et de combat. Édition spéciale dans le cadre de la journée des Franco-Ontariennes et des Franco-Ontariens sur CUT 89,5 FM. Bonne fête à vous tous et à vous toutes. Et oui, nous avons pu entendre le groupe Swing, groupe Franco-Ontarien, qui était très populaire dans les années 80-90. Nous avons pu entendre aussi des extraits d'un concert historique tenu à guichet fermé à la place des Arts du Grand Sudbury au mois de mars. C'était bien sûr la nuit sur les temps. Il y avait plusieurs artistes et auteurs franco-ontariens dont Robert Marinier, Max Gibson, Marielle Malo et Jean-Marc Adalpé, grand poète, dramaturge, romancier, scénariste, qui est un habitué d'ailleurs des éditions prises de parole.ca. Il a plusieurs œuvres à son actif. Et avant de passer justement un extrait d'un entretien avec lui, j'aimerais saluer tous ces artisans, comédiens, passionnés de la langue française, de la culture francophone, qui travaillent dans l'ombre, ou tout simplement certains refusent de mettre les projecteurs sur eux, pour toutes sortes de raisons. Une personnalité franco-ontarienne qui en a fait beaucoup pour lancer la culture francophone hors les frontières de l'Ontario, même sur la scène internationale. Je parle ici de Jacques Ben Simon, qui a été un mentor pour moi. Il a été directeur général de la chaîne de télévision francophone de l'Ontario, TFO. Monsieur Ben Simon a notamment fait une grande place au cinéma grâce aux soirées du film qu'il animait et dont j'ai eu le bonheur de présenter à quelques reprises. Grâce à lui, j'ai animé une série de 13 émissions sur les nouveaux immigrants francophones de l'Ontario. Passionné de cinéma et dévoué envers les talents émergents, il a été un ardent défenseur du court-métrage et a contribué à diverses initiatives clés à cet égard. Monsieur Jacques Ben Simon a dirigé l'Office national du film de 2001 à 2006, après avoir produit plusieurs films pour l'ONF. C'était un écrivain, un grand conteur d'histoire, un visionnaire, un homme de haut calibre que nous avons perdu, hélas, trop tôt. Il est décédé en 2012 à l'âge de 69 ans. Merci Jacques Ben Simon pour vos beaux conseils et votre contribution à faire avancer la diversité sur les écrans de TFO. Et je pense aussi au début et soubresaut de CJBC, la radio régionale de Radio-Canada à Toronto dans les années 1943-44, et tous ces postes régionaux à travers la province de l'Ontario qui ont soutenu la vitalité de la langue française et la culture. À cette époque, c'était un outil essentiel pour le développement de la francophonie. Et oui, CJBC nous a donné plusieurs grands talents de la radio. Je pense ici, entre autres, un ami Christian Carrérou, décédé malheureusement trop tôt, un Français au parcours atypique qui a marqué CJBC Toronto. Céline Galipeau, grande journaliste qui ne la connaît pas, qui est passée par Toronto, qui tient l'antenne chaque soir au niveau national. Nos salutations chaleureuses aux auditeurs et francophones engagés, tenaces de North Bay. Et oui, je pense ici aux gens de Toronto, professeurs, des professeurs que nous avons rencontrés depuis 1980-81, hein, entre autres professeur et grand poète francophone de Toronto, Eddie Bouraoui. Bonne fête à tous ces auditeurs de Sudbury, Timmins, Épinette Noire, à Hearst, où il y a une radio communautaire que je connais très bien, qui marche à 100% l'est de l'Ontario. Ils sont aussi très, très engagés, très actifs. La clé de la baie, Penetanguishene, des francophones très engagés qui ont milité pour des écoles francophones. Et oui, d'avait passé. Et bien sûr, c'est dans le comté de Simcoe. Je vous invite à aller faire un tour. C'est pas très loin de Toronto, dans le quartier de Barrie, la ville de Barrie, qui est où il y a beaucoup de francophones dans cette région. Allez, place rapidement à un court extrait d'un entretien avec le dramaturge franco-ontarien Jean-Marc Adalpé, qui a présenté une nouvelle pièce au Théâtre de la Licorne à Montréal il y a quelque temps de cela. Et ce n'est pas d'hier que ce fier franco-ontarien écrit sur l'identité, le déracinement, et avec toutes les compressions budgétaires du gouvernement actuel qui ont remis le combat de sa communauté à l'avant-scène, il convient participer à la résistance. Sans plus tarder, reportage.
Avant l'entrevue, Jean-Marc Dalpé, vous m'avez dit « Je pourrais vous donner une leçon de dramaturgie, mais ça va vous coûter de l'argent. » Alors, les caméras roulent. Je veux savoir, quel est votre secret pour écrire autant de pièces en 40 ans de carrière et être aussi percutant? Je veux la recette.
Il n'y a certainement pas une recette. Il y a un élément important, c'est le temps. Puis ça, c'est ce qu'on n'offre pas assez aux artistes créateurs. Puis la pression du marché de l'art, le manque de subventions aussi qui mine, c'est que ça gruge sur le temps qu'on a pour créer. Fait qu'on est obligé de faire des affaires vite. Puis le plus d'affaires que tu fais vite, bien peut-être que tu en fais des plus d'affaires, mais la qualité va nécessairement baisser. On a besoin de temps, voilà.
Jean-Marc Dalpé, vous habitez à Montréal depuis 30 ans, mais vous êtes né à Ottawa.
Oui.
Vous vous considérez toujours comme franco-ontarien.
Toujours.
Et j'ai bien remarqué votre petite...
Oui, absolument.
Qu'est-ce que ça signifie pour vous, cette identité de franco-ontarien?
Ben écoutez, ce que je raconte tout le temps, l'identité franco-ontarienne, c'est celle que j'ai choisie. C'est une identité qui est plus poétique que politique. Dans ce sens-là, Montréal n'est pas la métropole du Québec. Montréal est la métropole de l'Amérique francophone. Et donc, en quelque part, oui, je suis citoyen canadien, citoyen québécois, mais je demeure franco-ontarien. Et ici, c'est chez nous et tout.
Votre toute nouvelle pièce, La Queens, tout juste derrière nous, justement.
Oui.
Parle de famille, de lien familial, d'identité.
Oui.
C'est vraiment un thème récurrent. Vous avez été, est-ce qu'on peut dire, traumatisé un peu par la question identitaire dans toute votre œuvre? Est-ce qu'il y a eu un choc certain?
Bien, je pense que oui. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a dans ma vie, parce que je suis de... Je porte en moi ce conflit historique et politique anglo-franco qui est à l'intérieur de ma famille, mais à l'intérieur de moi. Fait que ça a souvent été des questions. Pour moi, ça a souvent été des questions qu'on me posait. Le regard des autres change selon avec qui je parle. Hein. C'est quoi?
Briser les roches et tantôt à leur tour te faire briser.
J'ai envie de dire, le jour où j'ai assumé pleinement cette idée de francophone et de franco-ontarien, qui est probablement autour de quand j'étais à l'université. Puis voilà, mais c'est lié au théâtre aussi, c'est lié à l'art qu'on choisit. C'est probablement autour de ça qu'il y a eu comme une éclosion. Fait qu'au lieu de parler de traumatisme, il y a eu comme une libération, il y a eu comme une éclosion.
Dans quelle mesure les récentes coupes dans les services en français du gouvernement Ford en Ontario pourraient vous inspirer à créer une œuvre?
Ben écoute, lui, il ne sait pas encore, là, mais il est en train de se faire taper sa gueule, Ford, par les poètes. Les poètes, on est tous mobilisés. J'ai un recueil qui s'en vient, dirigé par André Lasselle, une poétesse d'Ottawa, puis on est en train de sortir. Il sait pas, là, mais il est à la veille de recevoir 3-4 rimes sur la gueule, Mr. Ford. Là. Ça s'en vient très rapidement.
Certains vous ont qualifié de Michel Tremblay de l'Ontario. Comment on prend ça lorsqu'on se fait dire ça?
Ah, ben écoutez,
c'est une pression, c'est quoi?
On y pense pas. OK. Merci. Tu sais, c'est merci. Les prix, les honneurs, tout ça. On dit merci, puis on est très content. On est très content qu'il y ait des gens qui trouvent que ce qu'on fait vaut la peine, tout ça. Puis après ça, on oublie. Après ça, on passe à d'autres choses parce que c'est. Tu sais, faut. Ça peut être. Moi, je me souviens, ça m'a pris au moins un an et demi de commencer à écrire après le premier prix du gouverneur général. Ça, c'est un classique. Les premiers prix littéraires, les premières honneurs, tout ça, les auteurs, on perd les pédales. On dit, vrai qu'on est mal. Mais après ça, on oublie. Une fois qu'on a dépensé tout l'argent. Une fois que le coffre est vide, hey, on en écrit-tu une autre? Je pense que oui.
Jean-Marc Dalpé, merci beaucoup.
Quel
plaisir.
Pour la prochaine saison, devenez notre témoin de la francophonie. CUT 89,5 FM, la radio de l'Université de Toronto, vous ouvre encore plus son antenne. Votre radio a décidé de vous donner encore plus la parole. Vous allez pouvoir réagir à des sujets d'actualité, témoigner et partager vos expériences en tant que francophone ou francophile d'ici ou d'ailleurs. Popourri Show, en partenariat avec RFI et France 24, le magazine phare qui vous accompagne depuis plus de 36 ans. CUTFM, c'est votre radio. Nous la faisons ensemble.
Proudly student and listener supported community radio. CIUT 89.5 FM, celebrating 35 years as the sound of your city.
France 24. 4 chaînes d'information continue. 430 journalistes, 35 nationalités, 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur france24.com et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci.
Quoi de neuf? Les cafés du Créfaux. En partenariat avec Popourri Show et CUT 89,5 FM. Comment évoluent nos modes de vie et nos sociétés dans le monde? Comment se porte le monde de l'éducation, les francophonies et la diversité? Bienvenue au podcast Quoi de neuf à les cafés du Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, et la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto et l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario. Le CREFO, un centre de recherche interdisciplinaire qui pose un regard critique sur les pratiques éducatives, sociales et langagières de la francophonie en Ontario, au Canada et dans le monde. Abonnez-vous au podcast Quoi de neuf à les cafés du CREFO et c'est gratuit. Vous pouvez y avoir accès où que vous soyez dans le monde. Et cette troisième saison est animée par professeur Laura Bisaillon et tourne autour du thème de la production, de la diffusion des connaissances sur les mobilités, les francophonies, la minorisation, le corps et l'État dans divers contextes du monde. Quoideneuf.ca. Abonnez-vous maintenant.
Attention, attention, événement. Le Souk fait son grand retour sur la scène du Zénith de Paris le 31 octobre 2023, veille le jour férié. Le concept Génération Souk est de retour pour une date qui rentrera dans la légende. Harry Diboula, Joël Ursul, Luc Léandri, Jean-Luc Guanet, Orlan, Aris Bouraïen, Milka, Virgale, Leila Chico, Thierry Cam, Jacques Darbeau, Jean-Michel Jean-Louis et bien d'autres. Génération Souk, le 31 octobre 2023 au Zénith de Paris. Un concert orchestré par Tempo Classic Live. Billets disponibles sur bisou.com et dans les points de vente habituels. Un spectacle en partenariat avec Corsair.
Ciné Franco, 25 ans et ça se fête. Et tout au long de l'année, en ligne ou en salle, restez branchés sur CUT 89,5 FM pour découvrir les rendez-vous et les films de Ciné Franco, reflétant la diversité des cultures francophones. Cinéfranco.com, popourishow.com, 25 ans, ça se fête.
Hé, hey, monsieur, est-ce qu'il vous cause créole? Parlez-vous créole?
Tout le mois d'octobre est consacré à la célébration et à la mise en valeur du patrimoine culturel créole du Canada et de la planète. Comme à chaque année, Popourri Show, en partenariat avec la 22e édition du Mois du Créole à Montréal, vous invite cordialement à participer en grand nombre aux nombreuses activités et émissions spéciales tout au long du mois d'octobre. Et oui, le Mois Créole met en lumière la richesse des cultures créoles. À naviguer entre les lieux officiels et alternatifs à la découverte des cultures créoles à travers de la danse, de l'humour, du théâtre, des concerts, des lectures, des tables rondes, des ateliers, entre tradition et modernité. Nous rendrons hommage aux grands défenseurs des langues créoles et les grands artistes militants de la Maloya, du Séga, du Compazouk et de la Biguine. Retrouvez toute la programmation sur moisducréole.ca et popourishow.com. Au mois d'octobre, laissez-vous tenter par notre programmation spéciale aux couleurs et au rythme du monde créole. Bon mois du créole!
Le livre du jour. Chaque semaine, notre partenaire, la maison d'édition Prise de Parole, nous présente l'actualité et les nouveautés littéraires avec pour seul mot d'ordre, le plaisir. Découvrez les écrivains de la diversité francophone de l'Ontario et du Canada. Chaque dimanche, Popourri Show et Prise de Parole.ca nous donnent envie de déguster des histoires, dévorer les pages, savourer les mots enfin gourmets de la littérature. Retrouvez sans attendre toutes les entrevues des autrices et des auteurs sur popourrichaud.com ou découvrez tout simplement les nouveautés littéraires du moment sur prisedeparole.ca.
La table est mise chez Prise de Parole pour la rentrée littéraire 2023. On nous présente « Prendre racine », un récit poétique de Sonia Malaborza. « Prendre racine » aux éditions Prise de Parole est disponible sur le site de prisedeparole.ca. Quelque part, entre les eaux jonchées d'épaves et les forêts dévastées par le feu du comté de Quinte, « Prendre racine » invoque des événements et des êtres relégués à l'oubli en relevant les traces discrètes qu'ils ont laissées. Se bâtit ainsi un récit ou recherche archivistique, bribes d'histoire naturelle, chroniques familiales et observations sur le travail de conservation de l'environnement s'entremêlent telle une dentelle sauvage. Dansant sur la délicate frontière entre réalité et fiction, les fragments poétiques cartographient les mille chemins de l'appartenance. Originaire de Rexton, au Nouveau-Brunswick, Sonia Malaborza a fait un grand détour vers Toronto, puis Moncton, avant de s'installer à quelques kilomètres du village où elle a grandi. Lectrice, traductrice et incubatrice d'idées, elle prend plaisir à accompagner des auteurs et des traductrices et traducteurs dans l'exercice de leur profession, notamment à la revue Ancrage et à titre d'éditrice aux éditions Prise de Parole. Prendre racine, disponible en librairie depuis le 6 septembre 2023, ou sur prisedeparole.ca.
Autre titre qui sont à paraître bientôt, Hawkesbury Blues, suivi de Nickel, de Jean-Marc Dalpé et Brigitte Engens. Ancrée dans la mouvance du théâtre social militant, ces deux pièces phares de la modernité théâtrale franco-ontarienne mettent en scène des gens ordinaires, leur misère et leur joie, mais surtout leur détermination à améliorer leurs conditions de vie et de travail. Un autre titre à surveiller, Wellsford, de Claude Guillemin. C'est un roman policier. Ce roman a pour toile de fond un phénomène social des plus américains. Le développement des banlieues et l'émergence de la classe moyenne à Toronto dans les années 1970. Avec des scènes visuelles dignes d'un film et une intrigue captivante, Wellsford donne une perspective unique et une métropole où tout est marchandable, même la vérité. Et oui, en librairie le 3 octobre. Prise de parole prépare un événement spécial prévu le 22 septembre à 20h pour célébrer ses 50 ans. Prise de parole en codiffusion avec le Festival international de la littérature présente une soirée de célébration. Vous découvrirez quelques-unes des plumes les plus porteuses de l'histoire de la maison. Les textes seront mis en voix et en musique par des auteurs, autrices ainsi que des collaborateurs, collaboratrices. Direction artistique et mise en lecture, Pierre-André Doucet. Conseiller artistique, Joël Bédoz. Créateur, interprète, Jean-Marc Dalpé, Myriam Cusson, Rose Després, Pierre-André Doucet, Xavier Gould et Robert Marinier. Créateur, interprète, musique, Thompson Highway et Patricia Cano. Lectrice, Jenny Brizard et Patricia Cano. Pianiste, accompagnateur, Edouard Heyman. Une soirée qui s'annonce très intéressante. Et le 27 septembre prochain, lancement du livre « Regards croisés sur la grève d'Amoco à Hawkesbury », une histoire ouvrière de l'Ontario français d'Adrian Gagnon. Et le livre « Hawkesbury Blues » suivi de « Nickel » de Jean-Marc Adalpé et Brigitte Engens, événement qui se déroulera au Centre de recherche sur les francophonies canadiennes de l'Université d'Ottawa. Tous les détails sur notre site popourichaud.com. Voilà, je vous souhaite une très bonne rentrée littéraire sur CUT 89,5 FM, Toronto.
Je fais tout seul, seul, comme un grand comme un homme autonome, yeah. Un maniaque, tant que je gueule, je reste tout seul.
Ici, au pays, nous sommes l'écho d'un peuple fier et tenace. L'écho d'une magnifique histoire, pure laine et colorée. En 1610, un jeune Français de 17 ans, nommé Étienne Brûlé, demande à Samuel de Champlain d'aller vivre parmi les Autochtones. Avec les Algonquins, Étienne remonte les rivières de l'Ontario en canot d'écorce jusqu'au grand lac des Hurons. Étienne Brûlé est le premier Européen à aller habiter avec les Premières Nations. Il deviendra le père de la nation métisse en Ontario. À la même époque, on se retrouve à Port-Royal en Acadie. Un autre interprète, mais celui-ci d'origine africaine et portugaise, a bâti avec Champlain cette première colonie de la Nouvelle-France. C'est Mathieu d'Acosta. Mathieu crée le premier club culturel au Nouveau Monde, l'Ordre de Bontemps. Au soir de sa vie, le grand Champlain a confié à ses amis algonquins: un jour, nos garçons marieront vos filles, ils ne seront plus qu'un seul peuple. Et c'est à Québec que le petit Olivier Lejeune, venu des Antilles et du Madagascar, ira vivre avec la famille Hébert-Couillard, la première famille canadienne-française pure laine. Olivier donnera naissance au premier franco-antillais africain. Aux côtés des métisses tels Madeleine Nicolet, les fameuses filles du roi, dont une Allemande, une Hollandaise et une Brésilienne, sont venues de France pour donner naissance à de grandes familles canadiennes-françaises. Ce sont ces femmes courageuses, dont Madeleine de Roybon, qui unifieront notre langue française ici au Canada. Ensemble, ces femmes, ces hommes et ces enfants sont devenus les premiers Métis, les premiers Acadiens, les premiers Canadiens-Français et les premiers Franco-Ontariens.
Oui, viens nous voir. Nous, c'est qui ça, nous? Ici, parfois, quand on parle, il y a des eux, il y a des nous. C'est comme si nous, on ne faisait pas partie du nous à eux. Et nous, on dit parfois nous, c'est pas eux, c'est nous. On cherche à tisser des liens, mais c'est pas tout à fait nous, eux.
Je suis Willy. Et ça fait 8 ans que je suis parti de mon pays pour venir vivre ici au Canada. Et ici, en français, en Ontario. Ici, c'est ma terre d'accueil. C'est ici que j'ai découvert l'espoir, le respect, la liberté. C'est ici que je me suis fait une nouvelle vie et de nouveaux amis. Et c'est ici que j'ai compris qu'il ne fait pas froid.
Il fait fret en titi.
Ici, je me sens bien, j'ai deux cultures, je parle trois langues et je mange maintenant des shawarma, du sushi, des spanakopita et surtout de la poutine aux crottes de fromage de Saint-Albert. Je suis plus qu'une chose dans la vie, ça merci. Ici, je peux vivre avec fierté ma culture d'origine. C'est un trésor précieux que mes parents et mes grands-parents. Et ici, je suis aussi membre d'une grande famille colorée, la famille franco-ontarienne, ma famille franco-ontarienne. Ici, je peux faire une différence dans ce pays encore tout neuf. C'est un nouveau monde fondé, voilà, il y a 400 ans, par un poignet de Français. Oui,
Mais avec l'aide de qui? Avec les Premières Nations, bien sûr. Et aussi avec des gens de partout. Ben quoi? Qui pensez-vous qui a montré aux Français à danser ces 7 carrés? C'est nous! Mais non, c'est certainement pas un Africain qui les a montré ces danses-là. Ils font pas assez bouger les fesses. Ici, j'ai appris que le premier interprète de Samuel Champlain était noir et métis. Ici, j'ai appris qu'un jeune Africain faisait partie de la première famille française à Québec. Ici, Étienne Brûlé m'a appris qu'on peut être à la fois fier de ses origines et avoir l'esprit ouvert aux différences. Toute cette histoire, c'est devenu mon histoire. Est-ce qu'à chaque jour, je suis maintenant obligé de manger de la tourtière, du sirop d'érable et des bines qui font péter? Eux, oui! Pas nous! Vive le foufou! Oui, vive le foufou! On veut manger le foufou! Je suis, par amour de notre culture à nous, un Canadien français pur laine. Je suis, comme Champlain, un immigrant enraciné ici, comme à travers l'océan. Je suis, par les prédécesseurs venus de mon pays, un vrai francophone de souche. Mon nom est Willy, je suis fier d'être africain. Et aujourd'hui, comme nous, et nous, et nous, je suis tout aussi fier d'être franco-ontarien. Ta place, c'est ici. Ma place, c'est au cœur de ce pays. Ici, c'est notre place.
Ok, Yeah. Moi je suis qui? Ouais. Yeah. Moi je suis quoi?
C'est le tourbillon des super filles du roi qui ont unifié le français. Ici au Canada, je fais l'interprète comme Mathieu Dacosta. De Niagara à Matawa à Wawa.
Je sors sur le métro, je rêve tout haut. Fier comme une tour bien enracinée. Je prends le train, go, je chante tout haut. Je parle en français, chez nous en Ontario.
Et moi, ma culture franco-ontarienne.
Yeah, yeah, yeah.
Et fuck the music, c'est de chez Purelle. Mais si c'est coloré ensemble, continuons le party.
Encore, ouais, c'est ça.
Et moi, ma culture franco-ontarienne.
Huh.
Et fuck the music, c'est de chez Purelle. Mais si c'est coloré ensemble, continuons le party.
Ouais, ouais, Purelle est coloré. Plus fort, yeah. Purelle est coloré pour toujours.
Une brise se lève, sa plus longue rue du monde.
Yeah.
À mes oreilles, mes dialectes abondent. Des Premières Nations aux derniers arrivés. Je vis dans un monde plein de sonorités.
Comme Jean Mahopi, c'est un ou Eiffel. Ma langue, c'est le pont de cette tour de Babel. Partout en Ontario, au pays d'en haut. Autour du monde, je monte toujours plus haut, yeah.
Tournant l'heure, je commence à m'essouffler. Je saute dans un canot, oui, je dois filer vers ma nature pour retrouver mes racines, mes trésors de famille, mes origines.
Puisqu'on est plus qu'une chose dans la vie, grand comme une tour, mon cœur a plein d'amis. Un ventre chez nous me rappelle qui je suis. Moi, je ne m'assimile pas, je m'enrichis. Yeah.
Fier d'être venu et d'être on resté,
place,
d'être
ouais.
Encore là après tant d'années.
Belleville, Noéville, Riceville, Springville. Tu fais fond des bois comme au centre-ville.
Yeah.
400 ans qu'on est ici. Du monde venu de plein de pays. D'Haïti, d'Europe, d'Asie et puis d'ici. D'Afrique, du Vietnam, come on, let go, man. Encore, ouais, c'est ça.
Et moi, ma culture franco-ontarienne. Et pas comme une
les mêmes.
On est tous connectés.
On est tous pareils.
Les Franco-Ontariens, la résistance comme mode de vie. Édition spéciale dans le cadre de la journée des Franco-Ontariennes et des Franco-Ontariens, célébrée le 25 septembre. Une présentation de Popourri Show sur CUT 89,5 FM. Et oui, nous venons d'entendre un pot-pourri de quelques artistes francophones d'un bout à l'autre de la province de l'Ontario. Vous retrouverez leurs coordonnées sur notre site popourrishow.com. Et à la fin de ce pot-pourri, il y avait ce beau spectacle, l'écho d'un peuple que j'aime beaucoup. La chanson pure laine et colorée. Un vrai coup de cœur pour les francophones de l'Ontario à découvrir. C'est aussi un outil éducatif multidimensionnel capable d'amener diverses composantes de la francophonie ontarienne et canadienne à bâtir des ponts interculturels dans une harmonie sans précédent. Quoi de mieux de vous familiariser et vous mettre à la page de l'histoire de la francophonie ontarienne? Vous retrouverez tous les liens de ce documentaire sur notre site web. Et oui, nous sommes près de 800 000 de locuteurs francophones en Ontario. L'Ontario abrite la plus grande communauté minoritaire de langue française au Canada, à l'exception du Québec. De 1610 à 2023, les francophones de la province ont dû se battre pour sauver l'hôpital Montfort, leurs écoles, l'Université de l'Ontario français. Et ça continue avec les récentes études sur l'insécurité linguistique et le poids démographique qui dégringole malheureusement. D'ailleurs, je vous recommande de visiter le très beau site web de notre partenaire Le Créfo. Vous retrouverez une foule de ressources de recherche sur les politiques publiques impliquées dans la construction identitaire. Une recherche du professeur Normand Labry, vice-doyen au programme académique de l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario. Mais il n'est pas le seul. Il y a aussi d'excellents ouvrages de Monica Heller, professeur linguiste et anthropologue au Créfo. Les Franco-Ontariens, une communauté en constante évolution. Et je vous rappelle que l'Assemblée de la Francophonie de l'Ontario, l'organisme provincial porte-parole qui lutte depuis 1910 pour les droits des francophones et pour leur épanouissement, à découvrir absolument. Ils ont un très beau site web, monassemblée.ca. Le 25 septembre, célébrons la journée des Franco-Ontariennes et des Franco-Ontariens.
J'ai été renversée.
Ah, le spectacle est fantastique.
C'est ce qu'on parle avec toutes les grandes productions qu'on a au Québec.
Il y a quelque chose pour tout le monde là-dedans.
Ah, c'était vraiment fabuleux. C'était exceptionnel. On a vraiment passé une super soirée.
C'est émouvant. C'est pas hilarant, mais on rit quand même. On pleure.
À la fin, ça prend au trip. Hein?
C'est grandiose. C'est fantastique. Il n'y a pas de mots. C'est superbe.
Popourri Show, en partenariat avec Français du Monde, Toronto, a le plaisir de vous présenter Français du Monde, un nouveau rendez-vous d'actualité pour les Français d'ici et d'ailleurs. Français du Monde sur CUT 89,5 FM. Opportunités, bons plans, conseils pratiques, témoignages et les galères. Merci aux Français du Monde, Toronto. Qui fait quoi? Le calendrier culturel de nos partenaires. Justement, notre partenaire Français du Monde à Toronto vous invite à un pique-nique convivial de retrouvailles. C'est sans doute après le gros succès de cet été. Au programme, pétanque, casse-croûte, allez, soyez nombreux. Une bonne façon de terminer, enterrer l'été pour de bon. Allez, ce sera au Fred Hamilton Park Playground à 155 Roxton Road, près des rues Collège et Ossington Avenue. D'ailleurs, ce parc comporte une aire de jeu pour les enfants. Tous les détails suivront pour la date du samedi 30 septembre à partir de 11h. Vous retrouverez tous les détails sur notre site popourrishow.com ou sur la page Facebook de Français du Monde Toronto. On vous recommande d'apporter vos sièges pliants, s'il vous plaît. Et la Société d'Histoire de Toronto vous invite à sa prochaine visite guidée de l'Empire Goodman et Watts de la Distillery District à l'édifice Flatiron. Vous retrouverez tous les détails sur le site sht.ca ou popourrishow.com.
Tom. Je vous rappelle que c'est un endroit d'ailleurs très historique hein, maintenant, bien plus que de riches entrepreneurs. La famille Goodham et Watts a étendu son empire bien au-delà du moulin à grains de leur début. Vos guides seront Dominique Guillaumant et Roland Smith. 13h30 à l'entrée de la distillerie District 55 rue Mill, un endroit historique qui est de plus en plus populaire. Vous retrouverez des magasins de souvenirs et aussi des bistrots, restos et pubs. C'est gratuit, cependant, la Société d'Histoire de Toronto passera le chapeau à la fin de la visite. Tous les détails sur sht.ca ou popourichaud.com. Le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne de Le Créfo vous invite cordialement à la prochaine conférence de Myriam Richard. C'était, je pense, pas une des invitées des derniers podcasts du Créfo, n'est-ce pas, si je ne m'abuse. Et oui, ce sera pour le 16 octobre prochain. Faire famille au-delà des frontières et les impacts de la bureaucratie migratoire. Voilà un sujet qui tombe bien à pic, surtout depuis cette crise migratoire que connaît Toronto depuis l'été. Et donc, cette conférence aborde les expériences de séparation et de réunification de membres de familles réfugiées qui tentent de faire famille au-delà des frontières et les pratiques d'intervention psychosociale visant à les soutenir. Myriam Richard est candidate au doctorat à l'École de services sociaux de l'Université de Montréal. Sa thèse porte sur les expériences vécues de séparation et de réunification des familles réfugiées transnationales et sur les pratiques d'accompagnement psychosocial visant à les soutenir. Ces engagements au carrefour des milieux de recherche et d'intervention visent à promouvoir la justice sociale par le biais de pratiques d'intervention et de recherche inclusive. Rendez-vous donc le 16 octobre de 17h30 à 19h, faire famille au-delà des frontières et des impacts de la bureaucratie migratoire, expérience vécue de séparation et de réunification de familles, réfugiés et d'intervenants, d'intervenantes qui les accompagnent. Cela se déroulera au Nexus Lounge de l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario, de l'Université de Toronto, 252 rue Bloor West, au 12e étage, c'est le métro Saint-George, ou en ligne sur Zoom. Vous retrouverez le formulaire d'inscription et toutes les informations sur le site du Créfo et popourichaud.com. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition spéciale. Je remercie chaleureusement tous les étudiants et professeurs qui ont participé si généreusement à cette édition. Merci à tous ceux et celles qui ont participé à notre concours la semaine dernière et vous étiez nombreux à être au Rhum. Donc, une fois par mois, je vous invite, madame, monsieur, à venir vivre la nuit au Musée Royal de l'Ontario et vous courez la chance de gagner des billets. Bien sûr, vous serez parmi nos invités VIP une fois par mois, chaque dernier vendredi du mois. Merci à DJ Devera. Jeudi 28 septembre, ne ratez pas le spectacle de lancement de la 22e édition du Mois du Créole à Montréal avec la remarquable chanteuse, musicienne, compositrice et productrice Malika Tyrolien. Une artiste d'origine guadeloupéenne qui vit à Montréal, reconnue à l'échelle internationale, samedi 30 septembre, pour les gens qui sont à l'est de la province de l'Ontario, mais aussi à Montréal et Québec. Rendez-vous donc à partir de 18h30, le 30 septembre, à l'auditorium de la Grande Bibliothèque de Montréal, 475 boulevard de Maisonneuve, Est à Montréal. Tous les détails sur moisducréole.ca. D'ailleurs, il y a une belle programmation qui vous attend, madame, monsieur. Chaque jour, presque, il y aura un événement à ne pas rater. Allez visiter le site moisducréole.ca. D'ailleurs, cette édition est du Mois du Créole sur CUTFM est réalisée en partenariat avec le Mois du Créole de Montréal. Et dimanche prochain, nous aurons notre lancement à l'antenne en partenariat avec le Mois du Créole à Montréal. CUTFM vous donne rendez-vous dès 11h dimanche prochain avec des invités de marque. Allez, je vous laisse avec un petit cadeau montage que nous a préparé le DJ Devera. C'est mon coup de cœur, une grande artiste franco-ontarienne. Elle est imitatrice, chanteuse, animatrice, peu connue encore de la part de nos auditeurs. Elle est comédienne, elle tourne sa bosse, comme on dit, aux États-Unis, en France, en Belgique. Véronique Dicker, franco-ontarienne, très connue, et qui aime la francophonie, qui aime jongler avec les voix des meilleurs artistes du monde entier. Elle joue régulièrement en Belgique et au Québec. Une femme aux multiples talents et au parcours peu conventionnel. Allez, bon dimanche, bon appétit si vous êtes à table. Et à demain, on vous se revoit à l'hôtel de ville de Toronto avec nos amis de l'ACFO Toronto. Tous les détails sur notre site. Que la force soit avec vous. Je vous souhaite une très bonne et joyeuse journée des Franco-Ontariennes et des Franco-Ontariens. Ciao, ciao, ciao!
Ce soir, des centaines d'artistes vivront sous vos yeux grâce à la voix d'une seule et même personne, Véronique Dicker.
Bonsoir tout le monde, ça va bien?
Je veux l'amour, la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur.
Croque-moi la peau, s'il te plaît, croque-moi les os. S'il le faut, c'est le temps des grandes métamorphoses.
He's trying to make me go to rehab, and I say no, no.
Un amour qui se met dans un soufflet. Ma folie, mon envie, ma lubie, mon idée.
Mes bras se souviennent de nos matins libres, que le sang de mes veines se fige ou bien se vide, que mes doigts nous retiennent, que l'odeur de ta peau, que mon corps t'appartienne, bien au-delà des mots. T'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai.
Bougez-moi, j'exilerai ma peur, j'irai plus loin que ces montagnes de douleur.
If you can dance, let the music move your feet. Come on, come on, shake your body, baby, do that funk. I know you think it works out any longer. Feel the rhythm, getting stronger. Don't do that, don't try to.
And I just can't wait till the day when you'll knock on my door. Que fumer, l'amour c'est comme une cigarette, ça brûle et ça monte à la tête quand on ne peut plus. L'hiver, on se dégèle un peu, et puis quand ça dégèle, ben ça picote un peu. L'hiver,
never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Maybe
on me dit que le Québec c'est un endroit grandiose, qu'ils vivent dans des igloos et qu'ils ont les joues roses. On me dit que dans le bois, si tu croises un Indien, il te vaut la peau des couilles pour se faire des mocassins. Pourtant quelqu'un me dit que il est juste si fort. C'est quelqu'un qui me dit que c'est comme un poumon, mais me pire encore. On me dit que pour y aller, il faut traverser de l'eau. Qu'aller en taxi, ça coûte beaucoup d'euros. On me dit que la neige qui tombe est un salaud. Qu'à remettre de neige, on ne voit plus Sarko. Pourtant, quelqu'un me dit.
encore il existait autre façon de se quitter. Quelques éclats verts auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de